le parc McDonald. Le parc McDonald, situé le long de la rive du lac Ontario, en face de l'hôpital général de Kingston, fut désigné comme lieu de rassemblement des Mississauga pour recevoir le paiement annuel de leurs terres vendues lors du marché de Crawford. Chaque été, il se rejoint en canot afin de réunir ustensiles de cuisine, vêtements et alcool. Les Mississauga, premiers habitants de la région Cataraqui, sont installés le long des côtes du lac Ontario, l'intérieur des terres servant de terrain de chasse. Initialement, durant l'été 1983, Joseph Brant suggère de ne pas négocier avec les Indiens Mississauga pour récupérer la terre autour du Fort Frontenac, redoutant qu'ils ne donnent leur consentement seulement en échange d'une promesse de cadeau ou paiement. Cependant, c'est exactement ce qu'il se produit en octobre 1783. Lors du marché Crawford, le chef Minas, le plus ancien des Indiens Mississauga, acceptait de céder une partie de sa terre contre un paiement annuel de vêtements, de tissus rouges, d'argent, métal, des ustensiles de cuisine, de l'alcool et d'autres choses. Chaque été, les Indiens Mississauga se rejoignent au canot au parc McDonald, situé en face de l'hôpital général de Kingston, afin de recevoir leur cadeau. Mississauga, le nom donné par les Français et autres colons, fait sûrement référence au mot indien Mississauga, signifiant plusieurs embouchures de rivière. Les Mississauga avaient été baptisés ainsi en raison des nombreuses rivières coulant à proximité et tout autour de leur terre. Les rivières Trent, Moira, Shannon, Napanee, Kingston et Gananoque. Le général Haldimand avait l'impression que les Mississauga semblaient satisfaits de l'arrivée des hommes blancs parmi eux. Néanmoins, la crainte évidente face à la diminution de l'étendue de leurs terres avant le marché de Crawford, ainsi que le mécontentement devant le mépris général de leurs nouveaux voisins, semblerait plus vraisemblable. La seule rare rencontre documentée impliquant les Indiens Mississauga proviennent des journaux intimes de Mme Simcoe, qui n'était pas très complaisante à leur égard. Mme Simcoe était épouse du lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe, le premier lieutenant-gouverneur de la province du Haut-Canada, 1792 à 1796. Le récit de cette interaction avec les membres de la tribu revient fréquemment dans son journal durant son séjour dans la région Cataraqui et autres. En 1792, elle mentionne d'abord son mépris pour les Mississauga. « Il y a des Indiens Mississauga ici. C'est une tribu pacifique, oisive, ivre et sale. Je constate à quel point les extrêmes se rencontrent. Ces gens non civilisés, déambulant toute la journée dans la ville avec une nonchalance apparente. L'opinion tranchée dépend dans le journal de Mme Simcoe est probablement partagée par bon nombre de colons. Elle illustre l'immense clivage existant entre les cultures européennes et autochtones, cultures qui devaient néanmoins coexister à proximité les uns des autres dans la région Cataraqui. Malgré tout, il était clair que Mme Simcoe voyait un faible potentiel chez les Mississauga. Ils étaient parfaitement capables de réformer leur religion et ainsi d'améliorer leur tribu. Le chef Mississauga Ojibwe et le pasteur méthodiste Peter Jones rencontrèrent plusieurs communautés du Haut-Canada attirant autant les Blancs que les Autochtones. Parmi les divers noms d'Indiens, Desagondensa, signifiant « faire tenir les gens debout », était le nom connu des Mohawks. Ces sermons, source d'enseignement et d'inspiration, étaient, dit-on, une des raisons de la survie des Mississauga. À l'époque où les Mississauga, dont plusieurs groupes Ojibwe, étaient sur le point de s'effondrer, Peter Jones rappela les fondements spirituels s'avérant efficaces à l'unité de la tribu. Son frère et lui sont mandatés de compléter l'une des premières traductions de la Bible en Ojibwe, permettant ainsi son accessibilité et sa compréhension auprès des Indiens Mississauga. le Centre 4 directions pour étudiants autochtones. Le Centre 4 directions pour les étudiants autochtones situé au 146 rue Berry, aux abords du campus de l'Université de Queens, s'efforce d'apporter une immigration et une prise de conscience des expériences autochtones au Canada, ainsi qu'une sensibilisation de leur patrimoine. Le nom 4 directions provenant de la volonté du Centre d'offrir des ressources équilibrant et renforçant les 4 principes essentiels bien-être, académique, spirituel, émotionnel et physique. L'harmonie entre ces 4 fondamentaux fait partie intégrante du succès de la population étudiante autochtone de Queens. L'inclusion des ressources du centre dans la médecine spirituelle a fortement contribué à sa réussite, étant donné que la spiritualité est un aspect important et estimé de la culture américaine. Cependant, cette facette est généralement négligée par rapport à celle se concentrant plus sur le bien-être émotionnel et physique et qui ne rapporte donc pas pleinement aux besoins des étudiants autochtones. Le centre aborde de manière proactive des sujets sensibles sur les problèmes ou les questions autochtones pouvaient survenir à Queens, afin d'assurer une transition en douceur de la culture autochtone à la vie universitaire, de l'information et des conseils d'orientation sont facilement disponibles pour les étudiants et le personnel. Un conseil autochtone fut créé en 1992 afin de veiller à ce que les futures générations d'étudiantes amérindiennes aient accès à l'enseignement supérieur de Queens et que les mesures soient prises pour sensibiliser les enseignants et le personnel sur les questions générales auxquelles est confronté ce groupe d'étudiants. Le conseil composé de représentants autochtones issus du communauté de l'Ontario, de délégués des étudiants amérindiens, de Queens et de cadres supérieurs de l'université est directement impliqué dans les décisions touchant aux programmes et services autochtones de Queens. Les événements annuels tels que le symposium sur la recherche autochtone et le powwow ont contribué à créer un environnement plus accueillant à Queens ainsi qu'à sensibiliser la population en général sur la culture, les traditions et l'historique amérindienne. Outre ces nombreux conseils et recommandations, le Centre 4 directions sert également de sanctuaire pour les étudiants autochtones du campus. Un tipi traditionnel peut être vu de la vue Arch, dans le cours du centre où des cercles de discussion, des cérémonies et des enseignements sont partagés. Dans le tipi, il n'y a pas d'habituel d'y trouver un étudiant travailler, méditer ou se détendre. Le centre propose également des cérémonies et des rassemblements traditionnels tels que le festin des trois sœurs, les mercredis soirs et la cérémonie de la lune où des étudiants autochtones et non autochtones, le personnel de l'université et les membres de la communauté, toutes du sexe féminin, cherchent auprès de la grand-mère Lune des conseils et à renouveler leur énergie pour des offrandes cérémonielles. Le centre soutient tous les groupes culturels d'élèves autochtones sur la base des 4 fondements du bien-être, en particulier leur spiritualité, tout en défendant leurs besoins afin de s'assurer que l'Université de Queens et la communauté environnante soient sensibles aux problèmes particuliers auxquels ils sont confrontés. L'histoire que se cache derrière la rue Earl à Kingston est très intéressante. C'est une histoire qui nous donne un aperçu des dynamiques sociales se déroulant au 18e siècle. En ce temps-là, une pensée voulant faire de la sensibilité de l'égalité et du respect entre les hommes et les femmes, les lignes directrices d'une bonne conduite émergent, probablement suscitées par les philosophes de cette époque. Hugh Earl, de qui la rue Earl tient son nom, est un marin écossais ayant épousé Anne, la fille de Molly Brant et Sir William Johnson, en 1783 ou 1784. Anne et Hugh se marient probablement pour l'amour et la dévotion sincère qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Une passion motivée et encouragée était à cette époque une raison légitime pour s'épouser, par opposition au mariage arrangé pratique dans le passé. Contrairement à sa mère, Molly Brandt, fidèle toute sa vie à ses traditions Mohawk, Anne se bat pour maintenir son mode de vie à l'européenne tout en continuant à honorer ses origines autochtones. Bien qu'à cette époque, des progrès sont notables en matière d'égalité entre les races et les sexes, les peuples aborigènes se sentent encore parfois dégradés, jugés, dévalorisés pour leur héritage indien, leurs costumes et leurs tenues traditionnelles. Ces sentiments de mépris et de l'embarrassement sont probablement les raisons pour lesquelles les filles de Molly Brandt choisissent de s'identifier davantage à la culture européenne ambiante à Cataraqui. De plus, l'assimilation à la culture occidentale est fortement encouragée par leur oncle et chef Mohawk, Joseph Brandt. Anne est chanceuse d'épouser le capitaine Hugh Earle en 1812. Il passe aux commandes de la marine provinciale du lac Ontario, ce qui lui vaut le titre de capitaine. Connu pour être un gentilhomme de bonne réputation. La mère d'Anne, Molly Brandt, matrone du clan de la tribu des Mohawks, est conjointe de fait posséder une liberté à une indépendance qu'Anne n'a pas. À l'époque, la loi ne reconnaît pas les femmes mariées comme des êtres indépendants. L'autonomie d'Anne ainsi que sa qualité de vie furent donc entièrement déterminées par son mari, mais ce dernier lui laissait heureusement toute sa liberté. La cathédrale Saint-George et le Reverend John Stuart. La contribution du Reverend John Stuart dans le développement religieux, éducatif et social à Kingston est indéniable. Connu comme étant un homme au caractère exemplaire de bonne éducation compréhensif et ayant une grande influence autant sur les loyalistes que sur les autochtones, il était, dit-on, un bel homme d'origine irlandaise, grand d'au moins 2 mètres et admiré par ses pairs. Bon ami de Molly et Joseph Brandt, il est enterré proche de Molly à l'église Saint-Paul sur la rue Queen à Kingston. L'emplacement exact est inconnu. Le Reverend Stuart est ordonné prêtre en 1766 à Lourdes, Angleterre, et retourne peu après à New York dire la messe aux autochtones et aux colons du Fort Hunter. Il est aussi désigné missionnaire auprès des Indiens de Canajoharie, où il rencontre Joseph Brandt. En 1771, peu après le décès de la première de ses 3 femmes, Brandt vit brièvement avec le Reverend Stuart dans le presbytère Mohawk situé proche du Fort Hunter. Durant cette période, il travaillait sur la traduction Mohawk du Nouveau Testament, finalement imprimé en 1787. Vers la fin des années 1770, la propriété du Reverend Stuart est saccagée, tout comme plusieurs autres maisons loyalistes. Son église est pillée et la vie devient tant pénible qu'il demande la permission de partir. Finalement, en 1781, le Reverend Stuart ainsi que sa famille, sa femme, le premier de ses 3 enfants et leur serviteur noir, sont autorisés à rejoindre Québec, où il devient maître d'école. Ce n'est pas avant 1785 qu'il s'installe dans la région Cataraqui avec la seconde vague loyaliste. À Cataraqui, le Reverend Stuart ouvre la première école de l'ouest de la rivière Outaouais, d'abord dans sa propre maison, puis dans son bâtiment du gouvernement. La première église anglicane, l'église Saint-George, établie à Kingston, est fondée par le Reverend Stuart en 1792. Son emplacement d'origine, marqué aujourd'hui d'une plaque, était le bâtiment d'origine de Whig Standard, en face de la place du marché. C'est une modeste structure en bois de seulement 110 mètres carrés. Madame Simcoe, la femme du lieutenant-gouverneur John Grave Simcoe, est impressionnée par le service religieux de cette nouvelle église, comme en témoigne un paragraphe de son journal. Je suis allée 2 fois à l'église. Le prêtre, M. Stuart, vient des États-Unis. Il donne des messes avec un air grave et sérieux qui les rend impressionnantes. Mme Simcoe écrit également à propos d'une des messes les plus instructives auquel elle est assistée. M. Stuart a prêché l'un des meilleurs et des plus impressionnants sermons que je n'ai jamais entendu. Je cite, « Aujourd'hui est le temps propice. Aujourd'hui est le jour du salut. » Molly et Joseph Brandt ainsi que les Iroquois loyalistes sont tous membres de cette église, embrassant ainsi les enseignements du Reverend Stuart. Molly est la seule femme bienfaitrice de Saint George et une bonne amie du Reverend Stuart. Connu pour posséder peu de biens matériels, le Reverend Stuart a beaucoup à donner. Consacré à ses enseignements à la fois par son école et son église, il est enthousiaste par l'influence que l'éducation basique et spirituelle a sur l'unité et la cohésion de la communauté. Ses conseils et son exemple façonnent les gens de Cataraqui et inculquent en eux un sentiment de solidarité qui se révéla inestimable durant la guerre de 1812. Jusqu'à sa mort en 1811, les convictions et les amis politiques du Reverend Stuart ne changeront pas. Il continuera à être un leader solide et respecté dans la région Cataraqui. Son fils, George O'Kill Stuart, le remplacera à l'église Saint George, tout en enseignant à l'école secondaire. Molly Brandt. Molly Brandt, également connue sous le nom de Degonwadonti, signifiant « Nombreux sont mes opposants » en Mohawk, est la sœur de Joseph Brandt. Elle joue un rôle décisif auprès des Mohawks durant la guerre d'indépendance des Américains dans le but d'assurer la prospérité et la pérennité du patrimoine de Cataraqui. Molly et son frère grandissent avec leur mère et leur beau-père, Nicholas Brandt. Dans la tradition iroquoise, les noms étaient matrilinéaires. L'identité du père biologique est donc discutable. Ce sont les matrones, clans de femmes, qui détiennent le pouvoir de décision dans les tribus iroquoises. Elles sont responsables de la production et de la gestion des récoltes ainsi que de la viande chassée par les hommes. Les matrones ont également la lourde tâche d'élire les chefs et de s'exprimer sur tous les problèmes économiques et politiques pouvant survenir. Molly Brandt, destinée à devenir une matrone, est élevée selon les traditions iroquoises. Souvent accompagnée de ses aînés, durant ses voyages politiques, Molly Brandt devient une experte des affaires indiennes, mais également européennes. Cela ne fait pas seulement la représentante idéale de sa collectivité coloniale, mais celle de l'ensemble de la communauté indienne. Vers 1759, Molly épouse le superintendant aux affaires indiennes, un proche de son beau-père, Sir William Johnson, un non-indien. Puisque l'Église d'Angleterre refuse de reconnaître le mariage, suivant les rites traditionnels indiens, elle vivra avec lui au Johnson Hall à New York de 1763 à 1774, qualifiée de femme de ménage. Ce sont les yeux noirs pétillants de Molly et ses longs cheveux tressés, couleur d'ébène, qui charma Johnson. Dans le même temps, ce dernier est empreint d'une autre femme, Catherine Weisenberg. Une Allemande, mère de ses trois enfants, travaillait pour lui. Elle meurt en 1759. Cette même année, Molly donne naissance au premier de huit enfants, qui survivèrent leur propre enfance qu'elle aura avec Johnson. À cette époque, avoir des enfants de plusieurs femmes était acceptable dans la mesure où vous pouviez subvenir à leurs besoins. Bien que Molly soit considérée comme la femme de ménage, elle ne s'occupe que de très peu des tâches ménagères. Elle préfère assumer les responsabilités d'organiser les différentes activités sociales prenant place au Johnson Hall. Elle accueille les colons et les Indiens avec la même hospitalité. Le juge Thomas Jones décrit l'atmosphère de la maison comme agréable et conviviale. Après le petit-déjeuner, tandis que Sir William était à ses affaires, ses invités pouvaient se divertir à leur guise. Certains sortaient, certains partaient chasser, d'autres pêchaient, certains allaient flâner en ville, pendant que d'autres jouaient aux cartes, au backgammon, au billard et même aux jeux de quilles. Nous occupions ainsi nos journées jusqu'à 16 heures, à laquelle on servait le dîner. Sir William, en plus de sa famille, avait rarement moins de 10 invités. Cela pouvait aller jusqu'à 30. Tout était le bienvenu. Tout le monde s'assied ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Chaque invité pouvait choisir ce qu'il voulait et boire à la volonté. La tablée, ou de moins une partie, terminait rarement les festivités avant 3 heures du matin. Tout incluant Sir William lui-même pouvait partir à leur guise, il n'y a aucune retenue. L'accueil chaleureux et sincère de Molly envers les visiteurs de Johnson Hall lui confère une position prédominante auprès du peuple Mohawk. Son style de vie est bien loin de celui des Autochtones perçus comme primitifs et inférieurs. En réalité, Molly agit plus en matrone dans la maison en participant activement aux affaires politiques et sociales ainsi qu'aux tâches quotidiennes du ministère indien lorsque Johnson est absent. Sir William Johnson décédé en 1774, Molly fuit alors New York vers le Canada, accompagnée des enfants et de quelques loyalistes. Elle réside d'abord sur l'île Carleton, puis à Cataraqui, dans une maison bâtie pour elle, reconnaissance pour ses qualités de meneur d'hommes et son indéfectible loyauté envers les Britanniques. Malgré son immersion totale dans la culture européenne, Molly tient à porter les habits traditionnels iroquois et à rester connectée à son patrimoine indien. Une ségrégation stricte se développe peu après la guerre entre les communautés européennes et iroquoises à Cataraqui. Des moqueries sur les habits traditionnels autochtones, chemises lacées, pantalons serrés et mocassins, que portaient les Indiens Mohawks étaient lancées, particulièrement aux femmes, dans le but de les rabaisser. La fierté culturelle de Molly en son dévouement à préserver la tradition reste intacte, tandis que son frère Joseph Brant encourage son peuple à l'acculturation vers la culture européenne autant qu'un sens propre que figuré. Le désir indéfectible de Molly à rester contre l'assimilation était compréhensible. Les fermes Mohawks avaient un pouvoir économique et politique à perdre avec la disparition du rôle de matrone, rôle reconnu et influence près de la tribu Mohawk. Les filles de Molly et Johnson, tous mariés à l'autre société, leur mari étant respecté comme docteur et capitaine réputé, suivent l'exemple de Joseph Brant en adoptant les manières et arborant les robes de leur égale européenne. Un incident en particulier accentua leur désir de conversion. Lorsqu'un jour, vêtues de leur robe traditionnelle Mohawk, elles furent agressées verbalement avec des remarques et des insinuations déplacées par de jeunes officiers européens. Plus tard dans la soirée, elles recroisent ces mêmes hommes lorsque d'une cérémonie formelle, habillés d'élégantes robes de bal. Les officiers présentèrent leurs excuses pour leur comportement désobligeant et les invitent à danser, dans l'espoir de se racheter. Les sœurs refusèrent et quittèrent la réception avec un sentiment d'humiliation et de colère. Cet épisode isolé démontra bien la déconnexion entre les deux cultures. Même si l'assimilation d'une autre culture n'était pas le premier désir des femmes Mohawks, il fut évident que c'était la seule façon d'être considérées comme des personnes éduquées et pouvoir accéder au plus haut échelon de l'échelle sociale où la culture européenne dominait. Molly Brant, quant à elle, trouve un moyen de s'épanouir entre les deux cultures. Elle reste fidèle à son patrimoine Mohawk tout en gagnant le respect et la reconnaissance de la communauté européenne. Elle fut un véritable chef et une source inépuisable de soutien, de force et d'encouragement tant pour les Mohawks que les Européens. Malgré les épreuves que les Autochtones rencontrèrent dans le passé et celles qu'ils affrontent toujours aujourd'hui, Molly aura joué un rôle prédominant dans l'avancée de son peuple et aura montré la voie à ses successeurs jusqu'à son décès en 1807. Joseph Brant, connu également sous le nom de Thayendanegea, est le chef Mohawk des Six Nations. Il apporte un soutien loyal aux Britanniques sous le règne du roi George III durant la guerre d'indépendance américaine 1775 à 1783 et au-delà. En effet, voyant le bouleversement politique entre les 13 nations américaines s'intensifier, Brant a forcé l'obstination, finit par convaincre son peuple de rompre leur traité de neutralité avec les Américains afin de soutenir les Britanniques. En conséquence, lui et son peuple quittent la vallée Mohawk, située dans le New York d'aujourd'hui, pour s'installer à l'île Carleton, baptisée ainsi en hommage de Sir Guy Carleton, un commandant britannique luttant durant la guerre d'indépendance américaine. L'île Carleton est le fort Haldimand, nommé en souvenir de Sir Frederick Haldimand, gouverneur du Canada de 1878 à 1783. Serve le quartier général du Joseph Brant et ses hommes ainsi que les loyalistes et là-bas et mente des attaques contre les Américains en guerre. Le traité de Paris signe la fin de la guerre d'indépendance américaine entre la Grande-Bretagne et l'Amérique et ses alliés en 1783. Le traité reconnaît notamment l'île généreusement allouée à l'Amérique par les Britanniques. Néanmoins, rien ne fait mention de les dispositions du traité relatives aux terres des peuples autochtones et de leurs propriétés. Le mépris manifeste leurs besoins ainsi que le fait de devoir de nouveau déménager bouleverse Joseph Brant et les Mohawks. Brant demande alors de l'aide auprès de Sir Frederick Haldimand. En échange de leur loyauté indéfectible à la couronne britannique, Haldimand s'engage à trouver un terrain approprié sur lequel il pourrait s'établir. Brant affirme que la terre autour du fort Frontenac le revient de droit, étant donné qu'il s'en serve comme terrain de chasse saisonnier. Mais à cette époque, les Indiens Mississauga en les propriétaires officiels. Le marché que fait le capitaine R. Crawford en 1783 avec les Indiens Mississauga permet au gouvernement britannique d'acheter la terre convoitée et de l'offrir ainsi à Brant et son peuple. Après s'être installé à Cataraqui, Joseph Brant poursuit ses efforts pour assurer une vie paisible et prospère à son peuple. Il se souvient des médiateurs entre les Mohawks et d'autres tribus indiennes. Des citations dans le manuscrit de Draper mentionnent des réunions autour de feu. Il encourage l'assimilation et l'adaptation de la culture prônée par les Européens. En 1780, avoir perdu ses deux premières épouses, Brant épouse Catherine Croghan. Sept enfants naîtront de cette union. Contrairement à Molly, la sœur de Joseph, Catherine possède les croyances et les idées similaires au sujet de l'assimilation d'une autre culture. La famille adoptera les modes de la vie à l'européenne, tout en restant proche de leur patrimoine autochtone. Le marché Crawford. En 1783, Sir Frederick Haldimand conclut un accord appelé le marché Crawford, qui restera un des événements majeurs de la culture et du développement de Kingston. Reconnaissant le vœu des Indiens Mohawks de s'établir sur une terre occupée par les Indiens Mississauga, Haldimand ordonne que les négociations débutent dans le but de convenir à un accord avec les résidents actuels. En octobre 1783, le capitaine William Crawford, un ancien du régiment royal de New York, représentant le gouvernement britannique, fait partie de son succès. Le chef Minas, le plus ancien des Indiens Mississauga, et d'autres chefs Onondaga, convoqués sur l'île de Carleton, ont accepté de vendre leurs terres s'étendant de Toniata, ou la rivière Onagra, affluent du fleuve Saint-Laurent, au sud de Cataraqui, à la rivière de la baie de Quinte, en incluant les îles. Ils sont conclus en échange les terres contre toutes les couvertures, les armes à feu, les munitions et les habits qu'ils désiraient, ainsi que autant de chiffons rouges qu'il faudrait pour créer une douzaine de manteaux et de chapeaux galonnés. Depuis plusieurs années, les Mississauga retournent au parc McDonald pour recevoir leur dû. Belle-Île se trouve juste au nord un petit îlot boisé entouré par la rivière Cataraqui et visible de la terre à l'est et à l'ouest. Pour une île de sa taille, elle est une importante source d'histoire de passé des Autochtones de Kingston. Durant la période sylvicole intermédiaire et supérieure, 300 à 900 ans après Jésus-Christ, ce fut un lieu de chasse et de pêche sans doute pour les Indiens Hurons. Un camp permanent ne fut pas possible en raison de potentiels conflits avec les Indiens Iroquois. Avec la colonisation du fort Frontenac et des régions environnantes, le nom de la petite île est également changé. Durant les 85 ans d'occupation française, l'île était connue comme l'île aux Récollets. En 1758, le fort Frontenac est repris par les Britanniques, puis réoccupé en 1783 par les loyalistes après la guerre d'indépendance américaine. L'île prit le nom de l'île aux Pères. En 1828, il devient finalement Belle-Île. En 1988, la tâche de créer une plage artificielle revint au personnel du département des parcs et loisirs de l'hôtel de ville de Kingston. Des engins mécaniques acheminés pour le projet commencent le réaménagement. Puis, après le début du chantier, des dépouilles autochtones sont découvertes sur la côte de l'île. L'année suivante, en 1989, une fouille officielle de la zone commence dans le but de préserver les corps. Ils sont ramassés avec précaution et respect, datés et relogés dans une partie de l'île appropriée pour une sépulture. En plus des vestiges humains découverts sur Belle-Île, on y découvre des tessons de poterie, des restes d'outils primitifs ainsi que quelques morceaux de pipe. Tel qu'il serait dans la photo ci-dessous, les morceaux de poterie sont ornés de motifs variés. Il y avait plusieurs techniques utilisées pour embellir l'extérieur des pots. Grâce à différents outils, la surface de l'argile humide était scarifiée, gravée, texturée à l'aide d'une corde, estampée et époussetée avant le durcissement, laissant ainsi des motifs délicats, quoique un peu bruts. CMR et Aboriginal Leadership Opportunity Year. Depuis 2008, le Collège militaire royal du Canada offre un programme appelé Aboriginal Leadership Opportunity Year à l'intention des Autochtones, ou ALOE. L'objectif du programme est d'aider de jeunes Canadiens autochtones à poursuivre leur formation académique et acquérir des compétences militaires et à développer leur aptitude à commander. C'est également l'occasion pour eux de pratiquer l'athlétisme et de développer leur sensibilité culturelle. Le 17 juin 2011, le chef Donald Miracle, chef des Mohawks de la baie de Quinte, était présent pour la remise des diplômes des 16 élèves du programme d'un an. Après avoir achevé le programme ALOE, les candidats peuvent poursuivre au CMR dans un programme d'études universitaires ou retourner avec leurs compétences acquises dans leur communauté où ils pourraient devenir un chef parmi leurs pairs. Le programme ALOE est une excellente opportunité pour les jeunes autochtones d'explorer les possibilités d'une carrière militaire, de poursuivre leurs études et les encourager à mener une vie heureuse. Le Centre d'amitié autochtone Cataraqui. Le Centre d'amitié autochtone Cataraqui, situé au 50 Avenue Hickson, est membre de la Fédération des Centres d'amitié autochtone de l'Ontario et sert Kingston et ses 16 zones rurales environnantes. Les objectifs du Centre visent à répondre à un large éventail de questions autochtones aussi diverses et variées que les personnes composant de la communauté amérindienne de Kingston. Que ce soit pour des difficultés auxquelles sont confrontés les nouveaux parents, des problèmes propres aux femmes autochtones, des démêlés avec la justice, il existe des ressources et du soutien disponibles à tous. Le Centre d'amitié souligne que répondre à ces préoccupations de manière respectueuse et compétente est essentiel afin de trouver une solution. Il veille également à ce que les droits entre tous les peuples autochtones soient égaux et que toute préoccupation et opinion soient prises en compte lorsque un changement au sein de la communauté pourrait l'affecter. Le Centre propose un système de soutien, un forum ouvert et un lieu d'apprentissage tant pour les autochtones et les non-autochtones. Il s'efforce de fournir des programmes et des services favorisant la croyance et renforçant la tradition de la communauté autochtone tout en encourageant son respect et sa reconnaissance.